Merci au groupe Louange pour ce bon moment où on a pu rendre gloire à notre Dieu et se rendre compte de ce qu'il a fait pour nous, de ce qu'il fait pour nous, de ce qu'il a fait dans le temps, depuis tant d'années pour nous. Alors peut-être on peut réfléchir à ce qu'est-ce qu'on fait pour lui. Et c'est vraiment la préparation idéale pour vous apporter le message que j'aimerais vous apporter ce matin. Lors de mon message du 15 janvier, on a parlé du début du Notre Père, et plus particulièrement des trois premières demandes qui s'adressent à Dieu. On a parlé des trois premières demandes qui s'adressent à Dieu en exprimant, c'est au début de l'année, comment elles pouvaient être un petit peu nos vœux ou nos espoirs de chrétiens. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Et puis on s'était arrêté à cette première partie de la troisième demande. Alors j'aimerais qu'on reprenne aujourd'hui cette réflexion avec la phrase « Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel ». Curieusement, il y a deux endroits où dans la parole de Dieu, il y a le Notre Père, dans Matthieu et dans Luc. Et dans Luc, cette phrase n'est pas. Elle est zappée complètement. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Je ne sais pas si vous avez déjà réfléchi à ça. Ça nous pose d'entrée, et on doit se poser, un tas de questions légitimes qui vont nous amener à la fois à un sentiment d'inquiétude sur cette demande. Car cette demande nous interpelle et nous ébranle dans notre propre volonté. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, dans notre personnalité. Et ma volonté. Et puis, à la fois vers une réflexion qui est salutaire, tant elle nous ouvre le chemin, justement vers la volonté de Dieu, vers la destinée ultime de tout être, vivre dans le projet de Dieu pour lui, vivre dans le projet que Dieu a pour nous. Est-ce que je suis conscient ici de cette demande que je fais à Dieu quand je lui dis « Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel » ? Est-ce que je suis conscient de cette demande quand je m'adresse à lui, quand je fais cette prière ? Cette requête, ça veut dire qu'en fin de compte, c'est lui qui va tout gérer. C'est lui qui va tout gérer et que je ne vais plus rien maîtriser du tout. Et ça, que celui qui accepte ça tout de suite lève la main. C'est pas facile. Et puis d'abord, qu'est-ce qu'elle est cette volonté de Dieu ? Qu'est-ce qui se passe au ciel ? Parce qu'on va demander qu'elle soit faite comme au ciel. Est-ce que mon désir est vraiment que cette volonté soit faite aussi, cette volonté du ciel, aussi ici-bas, aussi dans notre monde ? Bon, ça encore. Mais dans mon monde à moi, dans mon monde à moi, autour de moi, chez moi, au-dedans de moi. Est-ce que je suis prêt véritablement, et là on doit se poser devant Dieu, est-ce que je suis prêt à accepter que ce qui doit être fait, et donc ce qui sera fait, c'est sa volonté. C'est pas ma volonté, c'est sa volonté à lui. Qu'elle soit faite à l'école primaire, on apprend c'est la forme passive sur laquelle on ne maîtrise rien. C'est-à-dire quelque chose qui nous arrive, qu'elle soit faite. C'est-à-dire que je la laisse s'imposer à moi, que je ne me mette pas en travers. Bien plus, si elle s'impose à moi, que je la comprenne, bien plus que je l'attende, bien plus encore que je la recherche, et encore plus que je l'apprécie et que j'en vive. Non pas que je vive avec ça, mais que j'en vive. Le théologien luthérien allemand, Johann Albrecht Bengel, donne de ce texte le commentaire suivant. Vous savez, des fois, les commentaires, c'est très long, et des fois, c'est très court. Et le commentaire, c'est « Le ciel est la norme de la terre. » Point. Cette citation visionnaire, inspirée, elle date quand même des années 1750. Mais est-ce qu'elle n'est pas plus que jamais d'actualité pour nous, et jour après jour? Elle n'a pas une ride. Et c'est bien là un axe de notre prière qui, de tout temps, pose problème à l'Église de Dieu, et plus individuellement à chaque chrétien, à chacun de nous, qui que nous soyons. Que sa volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Deux fois dans notre Père, on nous dit « comme ». Il y a aussi « pardonner ». Comme nous, et là c'est dans l'autre sens, hein, comme nous pardonnons. On en parlera une autre fois. Littéralement, comme au ciel, comme cela est le cas dans le ciel, comme ça se passe dans le ciel, comme c'est la norme dans le ciel. Alors, nous devons d'abord définir en quelques mots ce qu'est cette volonté de Dieu et chercher ce que nous en dit sa parole, la Bible. Alors, sans dresser une liste exhaustive, on peut affirmer que ces quelques éléments dont Paul parle aux Philippiens, au chapitre 4, au verset 8, décrivent assez bien ce qui se passe au ciel, ce qu'est la volonté de Dieu. Qu'est-ce qui se passe au ciel ? On espère en ce qui s'y passera quand on y sera, mais qu'est-ce qui s'y passe réellement ? Et Paul nous en donne une idée, et ça nous interpelle, tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, tout ce qui est vertueux et digne de louange. Voilà une image qu'on peut avoir du ciel, de ce qui s'y passe. Est-ce que ça correspond à notre image à nous ? C'est ça qu'on demande qu'il soit activé comme au ciel. Voilà la façon de fonctionner de Dieu. Voilà sa volonté qui se manifeste dans toutes ses actions depuis la création du monde. Sa volonté est faite dans ce qui est vrai, honorable, juste, pur, aimable, approbable, je ne sais pas si ça existe, mais ça ne fait rien, approbable, qu'on peut approuver, approuvable, peut-être ça, peut-être mieux, vertueux, digne de louange. Digne de louange, c'est ce qu'on a fait quand on l'a loué. On lui a dit qu'il était digne de louange. Depuis la création, Dieu a achevé son œuvre. Et qu'est-ce qu'il a dit à la fin ? Dieu vit que ce qu'il avait fait, Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voilà, ceci était très bon. Ceci était très bon. Genèse 11, 31, ceci était très bon. Mais Dieu ne s'est pas arrêté à la création. Après la chute, sa volonté ressort au travers de la rédemption, de l'envoi de son Fils. La volonté est donc d'abord, la volonté de Dieu est donc d'abord pour nous, que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Car il y a un seul Dieu, il y a aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour nous tous. 1 Timothée 2, verset 4. Dieu veut notre salut et notre bien. C'est ça sa volonté. Il veut notre bien. Il ne veut ni le mal sous aucune de ses formes, et il ne connaît le mal sous aucune de ses formes. Pour nous, ce qu'il veut, c'est notre bien. Romains 8, 28, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. On ne parle pas du mal, là, ou de l'à peu près, on parle du bien, au bien de ceux qui aiment Dieu, qui sont appelés selon son dessein. Alors, on a intérêt, quand je dis intérêt, c'est dans notre intérêt, c'est pour notre bien. On a intérêt à faire attention à nos propos, à nos pensées, mais aussi à notre témoignage. Tout ce qui vient de Dieu est bon. Et on ne peut pas accuser Dieu de choses qu'il ne nous amène pas. Le mal ne vient pas de Dieu. Nous ne pouvons pas attribuer à la volonté de Dieu du mal qui viendrait, qui serait les conséquences de notre propre volonté pervertie. Dieu n'est jamais à l'origine du mal qui nous arrive, et qui est l'apanage d'autres puissances, dominations, ou d'autres volontés, notamment humaines, qui veulent prendre la place de Dieu. Ne confondons pas volonté de Dieu avec volonté des hommes. Volonté et, avec un grand V on pourrait dire, la volonté de Dieu avec les volontés des hommes, les envies des hommes, les chemins des hommes. Et beaucoup de ce qui arrive aux hommes, à notre monde, vient de ce que justement, ils n'obéissent pas à la volonté de Dieu. Luther dit la chose suivante, « Que ta volonté soit faite !» Et puis, petit point de suspension, il continue, « Et son acceptation coûte beaucoup à la nature humaine, car la volonté, la nôtre, est en nous le mal le plus profond et le plus grand, et nous n'apprécions rien autant que notre volonté. » La marche qu'il y a entre la volonté de Dieu et la nôtre. La volonté de Dieu est que chacun de ses rachetés vivre de façon à être un être authentique à l'image du Christ. Ce que Dieu veut, c'est notre sanctification. 1 Thessaloniciens 4:3. Au mieux, ou au pire, c'est selon, comme on voit le verre à moitié plein ou à moitié vide, au pire ou au mieux, choisissez pour vous, Dieu peut permettre pour nous et en nous ce que nous appelons épreuve, tribulation, c'est-à-dire certaines situations de vie difficiles, voire terribles, injustes, voire même à nos yeux, mais dans ce cas, pour Dieu, elles ont toujours un seul but, notre bien et notre édification, si dure soit-elle. Se soumettre à sa volonté n'est donc pas une punition, n'est donc pas une humiliation pour nous, mais bien au contraire, l'acceptation de sa volonté et de l'idée du royaume de Dieu est le secret d'une vie digne de Dieu et heureuse. Comme au ciel, cette volonté. Le théologien Karl Barth dit, là-haut, sa volonté se fait comme elle doit être faite, en pleine connaissance de cause, sans obstacle ni délai, en toute liberté, de sorte que la grâce règne, souveraine, et reçoit en retour la reconnaissance de la créature. Nous, chrétiens, et la Bible nous le dit, et Dieu nous le dit, il s'adresse à nous comme ça, nous sommes en principe des gens plutôt, sensés, j'ai pas dit intelligents, j'ai dit sensé, mais Dieu s'adresse à notre intelligence et nous considère comme des gens qui réfléchissent avec sens. Des gens de paix, des gens de bien. Je ne nous flatte pas, mais c'est ce qu'on est en vérité par rapport au monde. Mais cela n'a rien à voir avec ce que Dieu attend de nous quand il nous propose que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Alors quelles peuvent être ici-bas nos attitudes, nos principales attitudes devant cette volonté de Dieu qui doit se faire comme au ciel. En gros, il y a deux façons. Il y en a d'autres, mais on va simplifier en deux. La refuser, cette volonté de Dieu, ou l'accepter. Ou bien alors, je vais être un peu plus fin, y résister ou l'accepter. Donc tout d'abord le côté négatif. C'est-à-dire le fait de ne pas vraiment vouloir ou pas vraiment accepter finalement que cette volonté se fasse, parce que ça nous enquiquine, parce que ça nous agace. Cette attitude, elle est courante. Et elle est courante, malheureusement, elle est aussi fréquente dans l'Église, au travers des personnes peu enracinées ou au travers des personnes qui sont imperméables à l'Esprit de Dieu ou qui ne laissent pas l'Esprit rentrer au fond d'eux. On dit souvent des personnes qui ne sont pas vraiment converties, mais on est converti ou on ne l'est pas. On ne l'est pas un petit peu au rabais ou en light, non. Alors, il y a deux façons de voir les choses dans le refus. Il y a une résistance qui est indignée. C'est-à-dire l'être humain qui, en fin de compte, veut garder à tout prix son autonomie. Et donc se rebelle contre Dieu. On a des exemples, je vous donnerai le Pharaon. Le Pharaon qui en Exode 5 dit de façon quelque peu hautaine, mais enfin, c'est qui l'Éternel pour que je lui obéisse? En disant, t'es bien gentil, mais c'est moi qui sais. Qui c'est lui pour que je lui obéisse? Sa volonté, C'est la pensée de notre siècle. On dit la pensée séculaire, hein. Mais c'est vraiment la pensée de notre siècle. Notre homme, l'homme, se convainc lui-même qu'il peut tout décider, qu'il gère tout par lui-même, et finalement, il évacue la notion même du Créateur, et son orgueil l'incite à se voir comme son propre Dieu, et à se prendre pour Dieu lui-même. À se prendre pour Dieu lui-même, donc c'est sa volonté. Le philosophe Nietzsche, qui n'était pas croyant du tout, hein, l'a exprimé de façon assez brutale et quelque peu aussi présomptueuse lui-même. Et il dit, mais si Dieu existait, comment est-ce que je supporterais de ne pas être Dieu ? Mais réfléchissons à ça. C'est dur, hein, mais est-ce que ça ne nous titille pas un petit peu, de temps en temps ? Alors je vous laisse apprécier personnellement. Si Dieu existait, comment est-ce que je supporterais de ne pas être Dieu ? Enfin. Pour beaucoup d'hommes et de femmes de notre monde, il y a ainsi une foule de choses, de croyances, de personnes, d'idoles, d'idées, à qui on serait prêt à sacrifier beaucoup de choses, voire même tout ce qu'on a, y compris tous nos biens, directement, y compris matériellement, notre maison, notre compte en banque, pour des promesses plus alléchantes les unes que les autres. Beaucoup de personnes. Mais faire confiance à Dieu, le Créateur, pour mon avenir, enfin soyons sérieux, c'est bon pour les bigots et pour les bigotes, uniquement. Moi, ça ne m'intéresse pas. Il n'y a aucune raison valable pour que Dieu se mêle de ma vie en quoi que ce soit. Écoutez, soyons, c'est à l'Église qu'on croit. C'est tout. Moi, j'ai entendu une collègue de bureau qui me disait ça toujours. C'est à l'Église qu'on croit. Quand elle me posait une question, elle me disait, écoute, t'as vu ça dans un dossier ? Je disais, écoute, je crois, je l'ai vu. Non, non, c'est à l'Église qu'on croit. Alors c'est à l'Église qu'on est sûr. Et non pas qu'on croit. Cela n'empêchera pas ce même genre de personnes, ces mêmes personnes, tout au long de leur vie, à se tourner pour les aléas, qui en mariage, qui en enterrement, vers l'Église, les mêmes personnes qui n'ont aucun égard pour Dieu. Dieu n'est pas dans l'Église. Résistance indignée, mais aussi un déni total de la place réelle de Dieu. La deuxième façon de résister à la volonté de Dieu, c'est une résistance passive. Et c'est beaucoup plus fin. Bien sûr, je crois en Dieu. Combien de personnes disent qu'ils croient en Dieu ? Mais vont jamais à l'église, ne prient jamais et n'ont aucun regard chrétien sur leur vie ou sur le monde. Combien de personnes ? Bien sûr, je crois en Dieu, mais quand même, sa volonté, il abuse un peu quand même. Hein. Je sais quand même, moi, mieux que lui, ce qui est bon pour moi. En fait, c'est que j'accepte pas du tout intérieurement cette volonté. Luther dit encore, l'homme n'aime rien autant que sa propre volonté et il ne se détache de rien avec plus de déplaisir. Ainsi, au fond de nous, est-ce que nous ne nous retrouvons pas inconsciemment, quelquefois, à prier, non pas que ta volonté soit faite, mais que ta volonté soit autre. Pas que ma volonté soit faite, mais que ta volonté elle soit autre. C'est-à-dire, je la déplace un peu vers moi, un peu beaucoup. Nous avons vite fait d'oublier et d'évacuer de notre pensée l'idée même des conséquences de nos actes et de notre rébellion contre sa volonté, celle que Dieu nous propose pour notre bien seulement. Alors, soyons positifs. Il reste quand même, pour terminer, à regarder aussi honnêtement comment, en gros, nous acceptons cette volonté, la volonté de Dieu. Et comment nous pouvons dire que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Oui, j'accepte ça. Deux idées en gros. D'abord, l'acceptation résignée quand même, un petit peu résignée. Attitude fréquente chez les croyants qui consiste à observer cette volonté de Dieu Je l'observe, je la vois, tout le monde en parle, donc je ne peux pas passer à côté. On en parle, il faut vraiment se soumettre à cette volonté. On en parle, on comprend, on la comprend. On accepte même qu'il faut qu'elle se fasse, pour finir, puisque c'est marqué, que ta volonté soit faite. Puis je le prie encore, tout haut, que ta volonté soit faite. Mais finalement, souvent à contre-cœur, on lui dit, bon, bah, écoute, puisque c'est cette volonté, c'est ta volonté, bah, vas-y, quoi. Mais sans enthousiasme, sans... avec une petite pointe d'amertume, un petit peu la fatalité, en employant même souvent le mot destin, puisque c'est mon destin. Nietzsche, le même Nietzsche, disait à propos du destin, finalement, aime-le, puisque tu n'as pas d'autre alternative, ton destin. Bien non, non, pas pour le chrétien. Pour le chrétien, il y a justement une autre alternative. C'est l'acceptation réelle et volontaire de la volonté de Dieu. De la volonté de Dieu. Que ta volonté soit réellement faite sur la terre comme elle l'est d'office au ciel. Et c'est l'acceptation joyeuse, par la foi, dans le Dieu en qui je crois, en qui j'ai mis, en qui je mets au présent toute ma confiance. En qui je mets dès à présent ma confiance et en qui je mettrai forcément ma confiance pour mon destin, pour demain, puisque je lui ai mis depuis hier, aujourd'hui, pourquoi ne la mettrai-je pas pour demain, éternellement? Celui qui croit en Jésus-Christ sait que la volonté de Dieu est toujours juste, sage, bienveillante, bienfaisante. Et quelle est la source du véritable bonheur pour la vie elle-même, pour chaque jour, pour chaque heure, pour chaque minute, pour chaque seconde, mais surtout éternellement. Le psaume 40 nous dit au verset 9, « Je prends plaisir à faire ta volonté, mon Dieu. » Rappelons-nous de ce verset, quand on dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, je prends plaisir à faire ta volonté. Dieu veut de nous une attitude de plaisir, de joie à faire sa volonté. Une attitude qui va nous guider en tant que croyants sur le chemin de l'obéissance ici-bas. Une attitude qui va lui permettre à Dieu de nous soutenir dans les moments plus difficiles de notre vie ici-bas. Ainsi, jour après jour, bénédiction après bénédiction, dans la maturation spirituelle qu'il nous apporte, la prière, notre prière, se transformera automatiquement avec ardeur et confiance totale en Dieu dans cette phrase qu'en aucune façon ta volonté ne cesse d'être faite. C'est cette acceptation joyeuse qui nous fera comprendre et vivre dans une attitude de collaborateur avec Dieu pour la réalisation de ses desseins qu'il a pour nous. C'est sa volonté, que prévale ici-bas, chaque jour, justice, vérité, paix, pour moi d'abord, soyons égoïstes, mais aussi, bien sûr, pour le monde qui nous entoure. Et rien n'y contribuera plus efficacement pour ce monde que le comportement et le message de nous, des chrétiens rachetés, lumière pour le monde, sel pour la terre. Rien n'y comportera plus que mon propre comportement en premier. Une acceptation joyeuse, une acceptation qui devient une collaboration fructueuse dans le plan de Dieu. Comme Paul l'écrivait, nous sommes ouvriers de Dieu, ouvriers de Dieu. Dans l'église où j'allais, avec mes parents, lorsque j'étais ado, il y avait une petite communauté espagnole. Moi, je ne comprenais rien à l'espagnol. Mais au sous-sol, il y avait un immense panneau avec un immense point d'interrogation. Et en travers, c'était écrit « Señor, ¿qué quieres que haga ?»« Señor, ¿qué quieres que haga ?» Moi, je ne savais pas l'espagnol. du tout. Mais je me suis rendu compte plus tard de l'importance et du bien fondé de ces phrases. Alors lorsque nous prions que ta volonté soit faite, il faut ajouter comme Paul, à cette époque, Saul de Tarse, cette même phrase, mais en français. Seigneur, que veux-tu que je fasse ? Amen. Je vous invite à prier. Seigneur, merci parce que tu as mis dans cette phrase ce mot « comme ». Il s'adresse à nous, il nous interpelle, il nous agace peut-être, mais il peut aussi nous motiver, il peut aussi nous transformer, il peut aussi nous transporter. Alors on veut te prier que tu nous dises quelle est ta volonté pour nous, mais que nous sachions aussi te dire, mais Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Comment est-ce que je peux être un ouvrier dans cette volonté qui doit se faire sur la terre? Parce que c'est ma responsabilité aussi. Et je te remercie parce que tu as mis ce mot et te remercie parce que tu nous donnes les clés. Aide-nous à être tout petits devant toi et à te louer, à t'adorer, mais aussi à rechercher cette volonté pour nous. Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi, Seigneur? Qu'est-ce que je peux faire? Aide-moi à me mettre à ton service, à ton écoute, en route sur mon chemin avec toi, sur ton chemin pour moi. Merci parce que tu me tends la main et merci parce que tu ne la lâches pas. Seigneur, je veux marcher avec toi et je veux, avec mes frères, rechercher cette volonté, que nous puissions être ensemble, individuellement, mais ensemble aussi en église, en communauté, ici, pour ce village, pour tous ces gens qui arrivent dans ce village, tous ces immeubles qui se construisent, tous ces nouveaux habitants, une image de ce sel, une image de cette lumière que tu nous demandes d'être, que nous puissions avoir de la saveur aux yeux du monde, Seigneur. Nous puissions apporter quelque chose. Seigneur, merci pour que cette volonté se fasse et que en aucun cas je ne sois une entrave sur terre à cette volonté qui est si belle parce que c'est la tienne dans le ciel. Sois béni, Père, et adoré. Amen. J'aimerais inviter Charlie et Nathan à s'approcher et on veut partager le repas du Seigneur. C'était sa volonté. Aussi, qu'on puisse partager ce repas, simplement. On va passer, Charlie, si tu veux, on va passer le pain avant. Mais c'est pas grave, on passera le pain. C'est le repas que le Seigneur a institué. Et dans le passage de Matthieu, il nous est dit la chose suivante. Pendant qu'il mangeait, donc c'est un repas ordinaire avec ses disciples, Jésus prit du pain et après avoir dit la bénédiction, il le rompit, le donna à ses disciples en disant « Prenez, mangez, ceci est mon corps ». Il prit ensuite la coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'Alliance, qui est répandu pour beaucoup pour le pardon des péchés. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où je le boirai de nouveau avec vous dans le royaume de mon Père ». Comme au ciel. Ce repas, un jour on le prendra au ciel avec notre Sauveur. Moi je vous invite à le prendre ce matin comme au ciel, à faire cet acte en disant merci Seigneur pour ce corps qui est brisé pour nous et on veut le vivre maintenant. Aide-nous à que cette volonté que tu as faite, cette demande, cette offre que tu nous fais d'accepter ce repas, on puisse le vivre comme au ciel et t'attendre jusqu'à ce que tu reviennes. Et on veut prier dans le sens. Je demande à Nathan de prier dans le sens. On parle de Jésus comme un rejeton, comme une racine qui sort d'une terre assoiffée. Le Christ n'avait ni apparence, ni éclat pour que nous le regardions, et son aspect n'avait rien pour nous attirer. Il a été méprisé, abandonné des hommes, un homme de douleur, habitué à la souffrance, semblable à celui devant qui on se voile la face, celui qu'on ne veut pas regarder. Il était méprisé. Nous, les hommes, nous ne l'avons pas considéré. Certes, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme atteint d'une plaie, d'une maladie, d'une honte, frappé par Dieu et humilié. mais il était transpercé à cause de nos crimes, écrasé à cause de nos fautes. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Charlie, est-ce que tu veux prier pour se remercier notre Sauveur de son sang qui a coulé pour nous?
Oui, Seigneur, nous voulons te dire merci pour tant de grâce. Tu nous as tellement aimés que tu es mort pour nous, pour que nous ayons la vie. Seigneur, viens nous aider à te répondre avec amour que nous t'appartenons. Et merci pour ton Saint-Esprit qui nous aide à marcher jour après jour avec toi. Amen.
Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur Jésus la faute de nous tous. Il a été maltraité, humilié, il n'a pas ouvert la bouche, semblable à l'agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Dans sa génération, qui s'est soucié de ce qu'il était retranché de la terre des vivants à cause des crimes de mon peuple, de la plaie qui les avait atteints?
Je vous laisse découvrir les annonces du programme de la semaine à l'écran. Je vous rappelle les conférences pour femmes qui auront lieu samedi prochain à Avuzy. Une pause s'impose. Je vous rappelle aussi les deux prochaines dates importantes dans nos calendriers qui sont donc le culte de baptême le 19 mars et le 21 mars l'assemblée générale de nos deux associations à 20h. Merci. Continuons de penser à ceux qui souffrent dans leur santé aussi. C'est important aussi de nous soutenir les uns les autres. On peut penser à Roland, Joël aussi, Rachel, Briand qui va nous apporter le message dimanche prochain. Voilà, Briand tient à rester sur le calendrier des cultes. Mais prions aussi pour lui, pour sa santé. Nous pensons aussi à toi, Hélène. Que le Seigneur vous renouvelle, vous fortifie. Continuons de penser aussi à Anne-Lise, Nastia, Guylaine et Jacques aussi. Voilà, s'il n'y a pas d'autres annonces, je vous invite à vous lever. Je vous lis encore deux versets dans Hébreux 10. Retenons fermement l'espérance que nous proclamons, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Veillons les uns sur les autres pour nous inciter à l'amour et à de belles œuvres. Amen. Bon dimanche et bonne semaine.